Patrick Coupchou, vous êtes journaliste, vous avez écrit des articles notamment pour Le Monde Diplomatique et vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Votre sujet de prédilection, c'est la question de la psychiatrie contemporaine. Alors avant de parler de la conférence organisée ce mardi soir à Arras par Attac Artois, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours et ce qui vous a amené à vous intéresser à la psychiatrie ?
Bah, écoutez, vous savez, la psychiatrie, je dirais presque que je me suis plutôt intéressé dans un premier temps à la psychiatrie, mais très rapidement à la folie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence. Si vous voulez, la psychiatrie, c'est une institution où c'est multiple, diverse, parfois contradictoire. La folie, c'est quelque chose qui est lié à l'être humain de tout temps, si j'ose dire, et de toute époque et de tout lieu. Donc en fait, je me suis intéressé à la folie, d'abord parce que j'avais quelques raisons personnelles de m'intéresser à cela, et puis aussi parce que c'est un sujet, si vous voulez, qui ouvre sur le fonctionnement social. C'est-à-dire qu'en gros, on peut dire que ça fait un peu... La folie, c'est quelque chose qui fait un peu loupe sur le fonctionnement social, sur ce qu'on ne voit pas du fonctionnement social. Ce qui explique, si vous voulez, que je suis passé d'un livre à l'autre, je suis passé de la folie à la souffrance psychique, et de la souffrance psychique à la souffrance au travail. Parce que, en fait, les choses sont liées, si vous voulez, voilà.
Alors, on l'a dit, vous êtes invité à Arras par Attac Artois Ternois, donc ce mardi soir à l'UFM à 19h30, pour présenter votre dernier ouvrage en date, qui s'appelle « La déprime des opprimés ». C'est une enquête sur la souffrance psychique en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre méthode pour réaliser cette enquête ?
La méthode de l'enquête en elle-même n'a pas, comment dire, un grand intérêt, parce que c'est une méthode d'investigation journalistique classique, c'est-à-dire que vous lisez, vous allez voir des gens, vous allez sur le terrain, vous faites parler des spécialistes, etc. Mais le livre est venu, c'est ce que je vous disais il y a un instant, le livre est venu du fait que quand j'ai travaillé sur la folie, je me suis vite aperçu, mais très très vite aperçu, que en fait les gens qui travaillent dans le domaine de la psychiatrie, dans le domaine de la santé mentale, pour reprendre le terme qu'on emploie aujourd'hui, je me suis vite aperçu que ces gens-là en fait avaient affaire pour les deux tiers de leur file active, pour les deux tiers de leurs patients, à des gens qui n'étaient pas fous, qui n'étaient pas psychotiques, qui n'étaient pas schizophrènes, mais qui étaient des gens qui souffraient dans leur vie quotidienne d'isolement, d'angoisse, de troubles divers, de pathologies diverses psychiques. Et qu'en fait, la psychiatrie aujourd'hui s'occupe beaucoup plus de ces gens-là que des psychotiques, par exemple. Donc, si vous voulez, le deuxième livre est peut-être, et même très certainement, le complément du premier. Le premier était tout à fait axé sur la folie et son statut dans la société. Et le deuxième était axé sur cette souffrance psychique de masse qu'on rencontre dans ce pays et dans d'autres depuis 15 ou 20 ans. C'est-à-dire que on a affaire à un phénomène très massif qui fait que, par exemple, les médecins généralistes aujourd'hui sont les premiers prescripteurs d'antidépresseurs et que les antidépresseurs, c'est ce qui se vend le plus peut-être aujourd'hui dans ce pays. Donc on a affaire à quelque chose de très massif et de très important, d'où la nécessité, quand j'avais commencé de faire ce travail sur la folie, de le compléter par un travail sur ce phénomène-là.
Qu'est-ce qui a changé dans l'organisation du travail pour que ça cause autant de souffrances psychiques depuis 15-20 ans ?
Il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte. Je vais répondre à votre question sur l'organisation du travail, bien entendu. Mais je veux dire, on ne peut pas simplement ramener ce phénomène à l'organisation du travail, même si l'organisation du travail est une pièce importante du dispositif. Si vous voulez, vous avez des phénomènes qui touchent à la vie en société en général, qui peuvent expliquer ou qui peuvent donner des clés de compréhension de ce phénomène de souffrance psychique. Mais c'est vrai qu'au cœur de ces phénomènes, qui touchent à l'ensemble de la société, à la façon dont elle se perçoit, à la façon dont elle s'organise, c'est vrai qu'on retrouve le travail. Et on retrouve le travail, soit on le retrouve, moi je l'ai rencontré d'une façon directe. C'est-à-dire que vous allez dans les entreprises, et pas simplement France Télécom, et pas simplement Renault, et pas simplement les grandes entreprises, mais également les petites, quasiment toutes les entreprises, vous rencontrez des gens qui sont en souffrance. Pour vous donner un exemple, en 95, Marie Peset, une psychanalyste, a ouvert la première consultation de souffrance au travail à Nanterre, et aujourd'hui, il y en a plus d'une vingtaine de ces consultations en France, pour vous dire, et quand on prend un rendez-vous chez ces praticiens, il faut parfois attendre 3 ou 4 mois avant de pouvoir l'obtenir. Donc vous voyez le côté important de ce dont je parlais. Donc si vous voulez, Il est vrai que cette souffrance au travail, on la rencontre dans les entreprises, et très massivement, et qu'on rencontre là la question du travail, et on le rencontre aussi en creux. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui sont licenciés, qui perdent leur travail au bout de 30 ans d'emploi dans une entreprise, quand vous avez des gens qui sont chômeurs de longue durée, quand vous avez des gens qui sont en contrat à durée déterminée, à répétition ou intérimaire durant des années, on rencontre aussi de la souffrance et on rencontre la question du travail. C'est-à-dire que la question du travail est une question politique majeure aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à partir du travail, et pas simplement son organisation, encore que je vais répondre à votre question sur l'organisation, mais sur le sens donné au travail. C'est-à-dire que à quoi ça sert de travailler et dans quelles conditions travaille-t-on et dans quelle organisation travaille-t-on? C'est les questions qui sont posées et qui sont, semble-t-il, à la racine des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, sur l'organisation du travail, il est vrai que quand vous regardez ce qui se passe dans l'ensemble des entreprises, quand vous regardez ce qui s'est passé dans le temps, qu'est-ce qu'on a vu apparaître dans les années 95, 96, enfin les années 90, disons le milieu des années 90? On a vu apparaître un double phénomène qui est un phénomène, comment vous dire, qui est commun à toutes les entreprises. Même si d'une entreprise à l'autre, il y a des particularités, même si c'est différent dans une petite entreprise par rapport à une grande entreprise, il n'empêche qu'il y a deux choses qui sont, me semble-t-il, communes à toutes. La première, c'est que l'individu aujourd'hui dans l'entreprise se trouve isolé. Il se trouve isolé contrairement à ce qui existait il y a une vingtaine d'années. Il se trouve isolé, il se trouve seul face à la direction d'entreprise, face à la machine de l'entreprise, et il se trouve en compétition, en concurrence contre les autres individus. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui est évidemment son corollaire, c'est qu'on a assisté depuis une quinzaine d'années à l'affaiblissement, voire parfois à la disparition de ce qu'on appelle les collectifs. Quand je parle de collectifs, c'est évidemment la vie associative, c'est évidemment la vie syndicale, par exemple, même y compris la vie commune dans l'entreprise qui a été affaiblie. Par exemple, tous les gens que j'ai rencontrés dans les entreprises vous expliquent que quand il y a un départ en retraite, on ne fête plus. Il y a 20 ans, dans les entreprises, on faisait une grande fête. Quand quelqu'un partait au bout de 20 ou 30 ans de travail dans une entreprise, on le fêtait. Aujourd'hui, les gens se sauvent comme des voleurs parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'il n'y a plus cette solidarité qui existait il y a 20 ou 30 ans. Donc, si vous voulez, c'est collectif, c'est ça, mais c'est aussi le collectif de travail. C'est-à-dire que le collectif de travail, c'est la façon dont les gens ont de travailler ensemble. Et le fait qu'ils travaillent ensemble, et le fait qu'ils mettent en œuvre ce que Yves Clos, là, qui est psychologue au CNAM, dit, appelle une dispute professionnelle. C'est-à-dire que c'est dans le collectif qu'on se dispute professionnellement, qu'on s'évalue réellement et qu'on travaille ensemble. Et les collectifs ayant disparu, l'individu se trouve sans défense. Il n'y a plus de rapport de force par rapport aux directions d'entreprise. Et donc, c'est là qu'intervient la pathologie. C'est-à-dire que c'est là que l'individu, le sujet, exprime son désarroi par la pathologie. Et c'est ce qui explique, pour une grande part, l'explosion des burn-out, des troubles dépressifs et voire des suicides.
Suite de notre entretien par téléphone avec Patrick Coupchou, on lui a demandé ce qu'il pensait des réponses apportées par les entreprises et les politiques à ces questions de souffrance au travail.
Pour les directions d'entreprise comme pour les politiques, il y a une contradiction qui est difficile à surmonter, c'est que tout le monde est conscient que l'organisation du travail telle que je vous l'ai rapidement décrite, tout le monde est conscient que la course à la concurrence, que la compétition dans tous les aspects de la vie, et quand je dis dans tous les aspects de la vie, on pourrait, je pense qu'on en parlera mardi avec Arras, on pourrait en parler pour l'entreprise, mais on pourrait en parler hors de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, le modèle de la compétition, de la concurrence, a été étendu à tous les aspects de la vie sociale. Donc, si vous voulez, la contradiction dont je parlais, c'est que tout le monde est conscient de ça. Tout le monde est conscient que la course à la rentabilité, la compétitivité, la concurrence, la financiarisation de la vie économique, c'est-à-dire le fait que c'est la finance qui commande, c'est les actionnaires qui commandent, et ce n'est plus le travail et ce n'est plus le métier qui est à l'ordre du jour, mais c'est le gain le plus rapide et le plus gros possible. Si vous voulez, tout le monde est conscient que les racines du problème se trouvent ici, y compris moi j'ai rencontré des experts qui travaillent pour les entreprises pour tenter de trouver des solutions, ils le reconnaissent. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'est pas question de remettre de toucher à cela. C'est-à-dire qu'il n'est pas touché, il n'est pas question de s'interroger sur le sens du travail, il n'est pas question de s'interroger sur le sens de ce qu'est la vie d'une entreprise, il n'est pas question de s'interroger sur l'organisation du management, tout ce qui est sur toutes ces causes, et qu'à partir de là, eh bien, il faut quand même essayer de faire face, parce que quand vous avez une entreprise comme France Télécom, dans laquelle il y a plusieurs dizaines de gens qui se suicident, ça fait quand même un petit peu désordre pour l'entreprise, pour son image, pour la façon dont elle vend son image sur le marché. Et donc, ça ne peut être que des choses à la marge. Mais là où c'est très pervers, si vous voulez, c'est que dans les choses à la marge, il y a à la fois cet effort fait de la part des entreprises, avec l'aide de certaines officines dirigées par des psychiatres, d'ailleurs souvent, des experts. Donc un effort pour faire en sorte que les individus s'adaptent. C'est-à-dire qu'ils apprennent à gérer leur stress, qu'ils sachent différencier le bon stress du mauvais, etc., etc. Donc les individus s'adaptent. Mais ça ne règle pas la question. C'est-à-dire qu'en fait, on va peut-être aider certains individus à s'adapter, mais on ne va pas changer leur vie, on ne va pas changer la concurrence, on ne va pas changer la compétition, on ne va pas changer tout ce que je vous raconte jusqu'à présent. Ça, c'est le premier point. Puis la deuxième chose qui me semble aussi perverse et dangereuse, c'est que, si vous voulez, on assiste à une sorte de banalisation. On parle aujourd'hui de risques psychosociaux, et ça, on assiste là à la fois à une tentative de traitement sans toucher à ce que je vous disais à l'instant au fond, mais en même temps, on assiste à une sorte de banalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement naturalisé le marché, on a tellement naturalisé l'activité économique et l'entreprise, que c'est comme si il y avait un cyclone, que quand il y a un cyclone, eh bien, il faut se mettre un peu à l'abri, et puis que si on ne trouve pas à se mettre à l'abri, eh bien, on n'y arrive pas, tant pis. Vous voyez, donc si vous voulez, la question de la souffrance au travail, on va l'amoindrir, on va essayer de la gérer le mieux possible, mais on ne va pas la résoudre, et au contraire, je pense même que ça va aller en s'aggravant, puisque la compétition va en s'aggravant, puisqu'on ne remet pas en cause la compétition entre les gens à l'intérieur de l'entreprise, puisqu'on ne remet pas en cause l'isolement des salariés, puisqu'on ne remet pas en cause l'affaiblissement des collectifs. Pour remettre en cause tout ça, il faudrait poser la question du travail et de son sens. Ça, évidemment, on ne va pas le faire, puisque si on remettait en question la question du sens du travail, ça voudrait dire qu'on remet en question tout ce qui fait le sens de l'économie aujourd'hui, c'est-à-dire les marchés, la concurrence, etc. etc. Donc vous voyez, pour résumer et pour répondre à votre question, je pense que le système tente de faire face à une question qui lui est posée, mais il n'est sûrement pas en train de la résoudre. Il est en train d'en niveler un petit peu les conséquences, les plus visibles. Il est en train d'essayer de faire en sorte que les gens s'adaptent. Mais on est loin du compte, évidemment.
Patrick Coupchou, l'invité d'Attaque Waternois ce soir à Arras. Alors, lors de cette rencontre, il parlera de la souffrance au travail, mais aussi du fonctionnement social plus généralement.
On est dans une situation d'insécurité généralisée, c'est-à-dire de précarisation généralisée. Quand je parle de précarisation, je ne parle pas simplement des gens qui sont dans un statut précaire. Je ne parle pas simplement des gens qui sont en CDI, comme j'en parlais tout à l'heure, ou qui sont intérimaires. Je pense que les gens aujourd'hui dans la société ont intégré quelque chose, c'est que plus rien n'est acquis. C'est qu'on est dans quelque chose de tout à fait précaire. Et donc, pour une masse de plus en plus importante de gens, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants d'ailleurs, pour lesquels l'avenir est quand même pour le moins bouché, on a une sorte de peur permanente. Et je vous donnerai un exemple que j'ai cité dans le livre. Il y a quelque temps un sondage, je crois que c'était Emmaüs, l'Humanité, puis je ne sais plus qui, un sondage qui disait que près de 50% des Français ont peur de devenir un jour SDF. Donc ils n'ont pas peur de devenir chômeurs ou d'avoir des difficultés financières, ils ont finalement peur de crever dans la rue comme un chien, parce que devenir SDF, c'est ça. Donc si vous voulez, ça montre, ce sondage n'est peut-être qu'un sondage, mais ça montre dans quel état psychique les gens vivent aujourd'hui, si on ajoute à cela évidemment la nécessité de se battre individuellement pour pouvoir s'en tirer, c'est quand même quelque chose de très, comment dire, de très préoccupant et qu'il faut tenir compte, qu'il faut prendre en compte si on veut comprendre la question de la souffrance psychique aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, si vous voulez, concernant la société, c'est que on a tout individualisé depuis 20 ans. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes au chômage dans une région où il n'y a plus d'entreprise, où il n'y a plus d'emploi, mais on va quand même vous faire porter la responsabilité de votre chômage. Et ça, les gens vont l'intégrer. Et comme ils vont l'intégrer, ils vont culpabiliser. Et comme ils vont culpabiliser, ils vont penser que, finalement, c'est pas la peine de réfléchir sur le système tel qu'il fonctionne, sur l'économie telle qu'elle fonctionne, etc. Donc, si vous voulez, on a ce système d'individualisation qui conduit à la paralysie politique et sociale et qui conduit chez le médecin ou chez le psychiatre. Parce qu'à un moment donné, je vous donne juste un exemple pour illustrer cette idée, les gens qui travaillent dans les consultations, les médecins qui travaillent dans les consultations de souffrance au travail, ils vous disent une chose, c'est que quand les gens arrivent dans leur cabinet, la première chose qu'il faut faire, c'est leur enlever la culpabilité. C'est-à-dire que ce sont souvent des gens, soit qui ont perdu l'emploi, soit qui sont harcelés, soit qui sont dans un stress épouvantable à cause du travail, mais quand ils arrivent dans le cabinet, ils sont culpabilisés, ils pensent que c'est de leur faute. Donc vous voyez, c'est ça, cette individualisation. Et cette individualisation, eh bien, elle conduit tout droit chez le psychologue, chez le médecin ou chez le psychiatre. Et donc on fait de la santé mentale, ce qu'on appelle aujourd'hui la santé mentale, et en particulier de la psychiatrie et voire de la médecine générale, un instrument de régulation sociale et un instrument de médicalisation de la vie sociale en général.